Question d'islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du Coran, de son histoire, une histoire plurielle. C'est une histoire entièrement renouvelée que nous vous proposons aujourd'hui. Il s'agit de la genèse du Coran et des débuts de sa transmission. Et pour aborder ce sujet ô combien important et crucial de nos jours, j'ai plaisir à accueillir le professeur François Desroches.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Merci à vous, merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes un islamologue de renom, membre de l'Institut et professeur au Collège de France, et vous êtes titulaire de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission. Votre dernier essai porte sur la formation du texte coranique. En réalité, c'est votre spécialité, ce sont vos études et vos années de recherche consacrées aux textes sacrés des musulmans. Quelle est l'idée nouvelle qui couronne le résultat de vos recherches? J'ai cru comprendre, mais vous allez le développer tout au long de l'émission, que le prophète de l'islam, Mohammed, était davantage soucieux du message et du sens du message à transmettre que de se cramponner, pardonnez-moi le terme, uniquement à la lettre.
C'est effectivement une des conclusions à laquelle je suis parvenu après avoir travaillé très longtemps sur les plus anciens manuscrits du Coran pour les identifier, pour examiner le texte. Et donc après ce travail de préparation qui a été assez long dans la mesure où c'était une approche neuve, dans la mesure où jusqu'à présent c'était assez peu intéressé à ces manuscrits, ce qui m'a semblé absolument fascinant, c'est brusquement de retrouver le hadith, plusieurs hadiths concernant un point très crucial pour le texte, un point sur lequel on reviendra tout à l'heure, et de voir que ce que disaient les manuscrits et ce que disait la tradition musulmane finalement se rejoignaient sur un point un peu surprenant effectivement, dans la mesure où ça ne coïncide pas tout à fait avec cette idée d'un texte qui serait absolument immuable et venu en quelque sorte d'un bloc par révélation.
Si je devais parler latin, je dirais ce n'est plus un textus receptus universus ne varietur.
Voilà, c'est-à-dire que on l'a fait ne varietur, mais c'est une décision humaine, une décision qui a pris place progressivement au 8e et 9e siècle et qui a donné lieu au développement de toute une théologie qui a sanctionné cette situation. Mais si on essaye de revenir au début, et on peut heureusement le faire, on se rend compte que la pluralité était la règle à ce moment-là.
Alors, si vous voulez bien, professeur, nous ferons connaissance d'abord avec le texte. Qu'en est-il? Quelle est sa nature? Entre les ipsissima verba dei, les paroles vraies de Dieu qui lui sont co-naturelles et consubstantielles, et ce que nous avons entre deux couvertures, le codex, est-ce que c'est la même chose ou il y a une perte en ligne?
Alors bon, la tradition musulmane, pour des raisons qui lui sont propres et qui correspondent probablement une réalité, a depuis longtemps développé une théorie de l'abrogeant et de l'abrogé, et on a conservé toute une série, je dirais, d'historiettes, sans vouloir être critique à ce sujet. Simplement, ce sont plutôt des récits destinés à expliquer un fait, qui est la disparition de parties du Coran sont supprimées à un moment parce que elles ne sont plus à l'ordre du jour. Alors c'est vrai que c'est une situation qui est complexe et que la théologie musulmane a beaucoup travaillé à expliquer, puisque certains versets abrogés continuent à être dans le texte du Coran, certains versets qui font autorité ne sont pas dans le texte du Coran, alors que ceux qui concernent le point en question continuent à l'être, et d'autres auraient purement et simplement disparu. Donc on a une situation assez complexe, mais qui laisse penser effectivement que nous n'avons pas tout ce qui a été dit.
Oui, il y a le débat très tôt entre théologiens musulmans, entre ceux qui disent cette affaire d'abrogeant et d'abrogé n'a pas beaucoup de sens puisque Dieu n'a pas à se tromper, si je puis dire, et d'autres qui disent oui, mais c'est dans la prescience divine et c'est parce qu'il y a une sorte de propédeutique, de pédagogie, une présentation comme ça d'une parole fragmentée sur 23 années lunaires, hein, 22 ans solaires.
Oui, effectivement, il faut tenir compte, je pense, de cette réalité. C'est la prédication mohammedienne se déroule sur un temps assez long. Là aussi, c'est un point sur lequel la tradition musulmane a insisté, c'est que les révélations sont en quelque sorte en réponse à des réalités terrestres. C'est-à-dire qu'il y a une situation et vient une révélation qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, comment il faut réagir. Et bien sûr, les situations évoluent et donc ce qui était peut-être vrai dans les premiers temps de l'apostolat mécois ne l'est plus forcément à Médine. Donc on a à tenir compte de cet élément historique qui a donné lieu à des débats considérables entre les gens qui, comme vous le rappeliez à l'instant, considèrent que l'abrogeant et l'abrogé est un peu une fantaisie dont on peut se défaire, et d'autres en revanche qui disent si c'est quelque chose d'important, dans la mesure où il faut savoir exactement de quoi on parle.
Oui, rappelons simplement que le moment mohammedien, cet apostolat, aussi bien pour ces deux phases, mécoises et médinoises, c'est entre 610 et 632 de l'ère commune. Je le dis uniquement pour nos amis auditeurs. Et cette idée d'un Coran révélé par fragments, c'est voulu pour permettre sa mémoration, pour pouvoir le mémoriser, ou c'est parce que, ce qui est un problème théologique aussi, une révélation qui descend à point nommé afin d'épouser les contingences humaines.
Alors, bon, les deux éléments doivent être pris, disons, séparément. Il y a effectivement cette idée que le Coran vient en réponse. Il y a une très, très, très clairement quelque chose qui est une ligne forte dans toute cette histoire de la révélation. Alors, le deuxième point, la mémorisation, est une question beaucoup plus complexe parce que finalement, on ne se rend pas très bien compte, c'est très difficile de savoir exactement ce que les gens ont retenu. Quand on lit la tradition musulmane, comme l'a fait par exemple Claude Gidiot, pour savoir quelle était la réception du texte, on se rend compte que finalement, très peu de gens sont réputés avoir appris tout le Coran par cœur au moment où Mohammed est mort. Et la liste est un petit peu, pour moi, un petit peu suspecte. Enfin bon, je le dis avec précaution, dans la mesure, par exemple, les premiers califes sont tous dans la liste. Bon, est-ce que c'est par, disons, égard à leur personne, à leur rôle, qu'ils figurent dans cette liste, d'autant que certains commentateurs médiévaux font observer que l'exercice du pouvoir pour Omar ou pour Osman ne leur laissait pas beaucoup de temps pour enseigner le Coran à d'autres musulmans. Donc la mémorisation est un aspect assez complexe et rejoint une autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de la mise par écrit progressive, parce qu'effectivement la mémorisation n'a peut-être pas été suffisante pour assurer le salut du texte, et finalement c'est l'argument qui est utilisé d'après ce que nous raconte la tradition musulmane, aussi bien pour l'opération menée par Abou Bakr, puis pour celle menée par Haussmann, que finalement l'écrit est le seul rempart contre l'oubli et la déformation. Donc il y a une idée qui, pour moi, a déjà commencé à se mettre en place à une époque antérieure en faveur de la mise par écrit, justement pour réussir à maintenir ces fragments qui venaient progressivement et qui étaient toujours en risque de disparaître.
Alors, on rentre d'emblée dans l'histoire de la fixation, le fait de stabiliser, pas encore peut-être, la Vulgate. D'abord, sous Abou Bakr, que vous avez cité, il y a une volonté de récupérer, de mettre par écrit tout ce qui était sur les matériaux de fortune, le cuir, les peaux de vache, les troncs de palmiers, les tessons, les omoplates, des papyries, etc.
Alors, cette opération est un peu, disons, a été mise en question par des gens comme Chevalli, qui est donc qui a repris l'histoire du Coran de son maître de queue, exactement, et qui pense que c'est un récit qui est venu secondairement. Dans la mesure où, comme Haussmann était lié à la famille Omeyyade, c'était difficile de laisser la vedette à quelqu'un qui n'était pas complètement, acceptable. C'est vrai que c'est une histoire extrêmement compliquée dans la mesure où, après ça, Haussmann refait cet effort considérable de récupérer le texte et à la fin du récit, dans le récit qui nous est transmis par Azouri, enfin qui a été transmis après ça par Boukhari et d'autres, sort la recension d'Abou Bakr avec laquelle on compare le texte et tout est parfait, donc pourquoi avoir refait l'effort de compiler le texte si il était déjà parfaitement compilé, et de plus par la même personne, Zahid ibn Thabit, qui dans les deux cas est le maître d'œuvre de cette mise par écrit. Donc il y a sur cet épisode un point d'interrogation qu'il est difficile de lever complètement.
Oui. Je le dis encore une fois pour les auditeurs, vous pensez et vous dites que le troisième calife Othman ne serait pas, d'un comportement irréprochable ou acceptable. Pourquoi ? Pour son dandysme, pour son népotisme. On voit mal comment finalement lui donne la primauté ou même le prestige d'avoir colligé le Coran. Donc il y a cette idée de donner un peu la primauté à Abou Bakr. Et puis pour ceux que vous avez évoqués, ce sont des traditionnistes, notamment Az-Zuhri et puis Boukhari, mort en 870, et le maître d'œuvre Zayd ibn Thabit, parce que nos amis auditeurs ne sont pas habitués à des noms comme ça arabes.
Alors effectivement, donc il s'agit dans tous les cas de aussi bien pour Zayd que pour Haussmann de gens qui sont des musulmans, je dirais pratiquement de la première heure. Zayd est médinois, donc bien sûr, il n'a pas connu l'épisode mécois. Haussmann, en revanche, est un personnage qui a adhéré à l'islam relativement tôt, et sa venue a été un élément important dans la mesure où il appartenait à une bonne famille. Et donc, sa présence dans les rangs de la petite communauté musulmane mécoise a été un élément important pour donner, une certaine assise à la jeune communauté. Zayd, en revanche, est un personnage plus modeste. Alors, on a beaucoup glosé sur un récit où on nous le présente jeune avec des boucles, et l'idée a été circulée qu'il était peut-être d'origine juive et que c'est la raison pour laquelle il était relativement familier avec l'écriture. On dit, par exemple, qu'il avait appris aussi le syriaque, donc c'est un personnage qui est, bien sûr, qui n'a pas le rang de Haussmann, mais qui est important pour notre propos dans la mesure où c'est lui qui, dans les deux cas, est chargé de mettre par écrit. Ceci également parce que à l'époque de Mohammed, il était également un des scribes qui servait à enregistrer les révélations qui arrivaient à ce moment-là, mais également qui a pu dans ce qui était à l'époque l'embryon d'un État, servir de secrétaire pour des lettres qui étaient envoyées à droite et à gauche par Mohammed lui-même. Alors ce personnage est un personnage très intéressant dans la mesure où finalement c'est sur une personne que repose ce processus de recension, du moins dans l'histoire qui nous a été transmise de manière dominante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu également d'autres compagnons qui ont également mis par écrit, certains qui, comme Zaïd, étaient tout à fait capables d'écrire, comme Ubay, et qui a donc compilé sa propre version du Coran, ce qui montre justement qu'il y a le mouvement a été probablement beaucoup plus divers, beaucoup plus ouvert que ce que l'on a tendance à voir en lisant, disons, les recueils de hadiths les plus importants, qui insistent surtout sur l'épisode où Zaïd est à l'œuvre.
Oui, la version standard, c'est que le calife Othman, entre 644 et 656, a été alerté par un certain Hudhayfa, qui vient l'appeler un peu au secours, fait en sorte que les musulmans n'aient pas une divergence dans la lecture de leurs textes.
Oui, absolument. Et ce qui est très intéressant, donc, c'est que dans un des récits, on spécifie même que dans l'épisode qui alarme ce général, on va l'appeler comme ça, c'est le fait que les uns récitent le texte d'Ubay, d'autres celui d'Ibn Mas'ud, donc deux compagnons qui ont leur propre tradition, et devant cette dispute sur le texte, il va trouver Osman qui va donc lancer l'opération de recension et mettre au point le texte osmanien qui, tel que cela apparaît tel que cela est impliqué par le récit de Zuhri, apporte la paix alors que les autres textes étaient cause de disputes. C'est un élément qu'il faut retenir pour justement la suite de notre propos.
Et toujours dans cet épisode là où on fait connaissance avec la manière dont le Coran a été recensé, rassemblé, j'ai dit tout à l'heure colligé, qu'en est-il de l'écriture? Alors on parle de carcasses consonantiques, de lettres homographes dépourvues de points diacritiques, d'autres disent que non, les points y étaient déjà. C'est quoi? Parce que c'était simplement une graphie aide-mémoire ou déjà à ce moment-là, on avait les vocalises ou elles sont venues bien plus tard?
Alors, l'état de l'alphabet arabe, tel qu'on peut le voir par des documents qui sont datés. On a des choses extrêmement anciennes. Le papyrus de Nessala qui est plein de l'Égypte, ce sont des choses qui sont extrêmement précoces, montrent effectivement que bon, l'arabe, en tant qu'écriture, avait déjà, disons, une bonne partie de son répertoire en place. Les points diacritiques qui permettent de distinguer les homographes étaient connus, mais le fait est que les scribes ne les utilisaient pas de manière systématique et les utilisaient même parfois de manière un peu surprenante. C'est-à-dire que si on regarde plus tard, on a des gens comme Ad-Dani qui écrit donc vers le début du XIe siècle. C'est un Andalou qui est un des grands spécialistes du texte coranique et il présente sa version d'histoire du texte du Coran et dit les points diacritiques ont été introduits un peu plus tard par Al-Hajjaj ibn Yusuf,
et donc
il l'a fait pour distinguer les lettres qui étaient fondamentales pour distinguer par exemple la personne des verbes, c'était la deuxième ou la troisième personne, etc. mais ce que les manuscrits qui sont antérieurs à cet épisode nous enseignent, c'est que les copistes utilisaient les points diacritiques, mais les utilisaient pour des lettres qui finalement n'étaient pas si cruciales pour bien comprendre le texte. Ils les utilisaient pour des lettres que on peut déchiffrer sans avoir un point diacritique. Donc, la pratique de l'écriture était sans doute moins balisée, disons, par les préoccupations théologiques que par le souci d'enregistrer un texte de base. Quant aux voyelles brèves, elles étaient tout simplement absentes puisqu'on n'avait pas de moyen de les noter. Donc c'était un alphabet sémitique traditionnel comme celui qu'on trouve sur les inscriptions phéniciennes finalement où les voyelles brèves sont absentes. Et en plus, c'était un alphabet qui était utilisé pour noter les choses selon une graphie qu'on appelle défective, dans la mesure où un certain nombre de voyelles longues n'étaient pas notées, ce qui laissait ouverte la possibilité de lire d'une manière ou d'une autre, suivant qu'on imaginait qu'il y avait une voyelle longue ou non.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du Coran et de son histoire plurielle avec l'islamologue François Desroches, membre de l'Institut et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission. Monsieur le professeur, dans cette deuxième partie de l'émission, qu'adviendra-t-il de la Vulgate ottomanienne? On est en seconde partie, seconde moitié du 7e siècle. Il va y avoir d'autres codex, des Corans rivaux, si je puis dire, ou des variantes qui vont circuler simultanément.
Là, effectivement, donc à ce moment-là, rien n'est joué. C'est-à-dire que le scénario possible, parce que nous n'avons pas de témoins conservés de manuscrits plus anciens, mais le scénario probable, c'est que à l'époque de l'apostolat de Mohammed, certains des compagnons avaient déjà commencé à noter les textes. D'ailleurs, la tradition musulmane ne nous dit pas autre chose quand elle nous dit que on a réuni les textes qui se trouvaient sur des supports divers, ceux que vous évoquiez tout à l'heure, les omoplates, les papyrus, les morceaux de pierre plate. Donc, il y a eu déjà avant la disparition de Mohammed une tendance à mettre par écrit des morceaux du texte, et c'est peut-être aller relativement loin, puisque ce qui est frappant, je saute, disons, à une étape ultérieure, c'est que dans un Coran, qui est un autre Coran, une autre rédaction du Coran que celle que nous connaissons comme la version haussmannienne, je veux dire le palimpseste de Sana, à l'intérieur des sourates, même si la façon de s'exprimer est différente, même si l'ordre des sourates est différent, c'est-à-dire que la séquence n'est pas la même que dans le Coran canonique, l'ordre des versets est le même, comme si les sourates avaient déjà été mises en place, probablement sous l'autorité de Mohammed lui-même, mais que dans le détail des expressions, il y avait des variations. Donc, ces premiers manuscrits ont sans doute servi de base à l'intérieur de groupes qui existaient dans la communauté musulmane pour donner naissance à des recensions complètes. Celle que nous savons avoir existé, celle d'Ibn Mas'ud, qui est celle que nous connaissons sans doute le mieux, le Coran d'Ubay, que j'ai évoqué également tout à l'heure, et probablement d'autres Corans dont nous n'avons pas la trace, mais qui ont circulé à cette époque.
Oui, nous le dirons pour nos amis auditeurs, le Coran d'Ibn Mas'ud a cette spécificité de ne pas avoir les dernières sourates, celles dites prophylactiques ou préservatrices, celles qui conjurent, en tout cas, le sort. Cette version n'a pas non plus la préface invocatoire qui est l'ouvrante, la Fatiha.
La Fatiha, ça c'est effectivement quelque chose qui est pour nous très surprenant, mais nous savons que Ibn Mas'ud considérait que ça n'était pas du Coran.
Et que c'était plutôt des
prières qui avaient leur légitimité, mais qui n'étaient pas une parole révélée.
J'essaierai de savoir auprès de vous, monsieur le professeur, cette histoire. On dit qu'un certain Ibn Shanaboud, au Xe siècle, a été bastonné parce qu'il n'avait pas voulu lire le Coran selon sa version standard, la Vulgate ottomanienne, mais plutôt selon le codex d'Ibn Mas'ud. Et donc, on l'a obligé à finalement n'avoir qu'une seule lecture. Et c'est comme ça que le bras séculier, que l'intervention du prince a fixé aussi le Coran.
Alors l'intervention du prince a été constante. Osman en est le premier exemple. Après lui, Abd al-Malik, puisque c'est sous le règne de l'Omeyyade,
son gouverneur.
Voilà, Al-Hajjaj ibn Yusuf qui s'est chargé de faire une autre révision. Et effectivement, sous les Abbassides, on a cet épisode et on sait que le vizir de l'époque, Ibn Mukla, était très directement impliqué dans le soutien à la version osmanienne en appuyant Ibn Mujahid, qui était un spécialiste des lectures, comme d'ailleurs l'était Ibn Shanabud. Ibn Mujahid a donc décidé qu'il y avait sept lectures et que ces sept lectures devaient respecter le texte, disons le ductus consonantique, là, le squelette consonantique du Coran osmanien, sinon ça n'était pas bon. Alors ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est que Ibn Shanabud n'était pas en fait simplement un supporter, si vous me permettez l'expression, d'Ibn Mas'ud, il était aussi le transmetteur d'une version canonique, et d'ailleurs il est reconnu comme le transmetteur d'une des 14 variantes du texte coranique qui sont toutes canoniques, elles. Et donc, il y a dans l'islam ancien une tradition de spécialistes du texte coranique qui étaient des gens ouverts à la diversité, qui acceptaient aussi bien Ibn Mas'ud que le texte coranique, et pour eux, ça ne posait pas de problème. En revanche, il y avait effectivement les gens qui étaient les supporters d'Ibn Mas'ud, ceux qui étaient les supporters du texte osmanien, et qui ne voulaient pas entendre parler d'autre chose. Donc c'est une des choses très intéressantes que je pense qu'il faut souligner, c'est cette pluralité de l'islam ancien et l'existence, disons, d'un courant très ouvert qui considérait finalement que la lettre était sans doute pas si importante que l'esprit du texte, rejoignant en cela le hadith des sept Ahruf où Muhammad dit bien que ce qui importe c'est de ne pas changer le texte, qu'on le récite d'une manière ou d'une autre.
Oui, sept Ahruf, pluriel de harf, qui veut dire à la fois bordure, lettre. Le mot est aussi polysémique et un peu ambigu.
Le mot est très ambigu, très difficile et a fait l'objet de débats considérables au sein du monde musulman. Alors c'est très intéressant de voir que on a imaginé toutes sortes de choses pour expliquer les ahruf, mais curieusement, les gens n'invoquent jamais les lectures, les Corans d'Ibn Mas'ud ou d'Ubay pour les intégrer. Le seul qui le fasse de manière très marginale, c'est Suyuti, donc au XVe siècle, un esprit extrêmement impressionnant, l'homme d'une culture
et un grand érudit
absolument fantastique.
Polymath.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il ne parle plus de harf, il parle de qiraat de Ibn Mas'ud, ce qui est une façon de faire rentrer dans le rang
Kiraat, c'est plutôt lecture.
C'est des lectures, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus admis, en fait, qui est parfaitement admis par la tradition, à commencer par Ibn Mujahid, puisque c'est lui, Ibn Mujahid, qui met en place les sept lectures. Et on remarquera d'ailleurs que le nombre des lectures, kiraat, est exactement le même que celui des ahruf. Certains ont dit que c'était une coïncidence. Personnellement, j'ai trouvé sous la plume, ou plutôt sous le calame de certains commentateurs musulmans, des reproches à Ibn Mujahid d'avoir décidé qu'il y avait sept kiraat dans la mesure où ça prêtait à confusion. Suyuti, par exemple, n'a pas de mots assez durs pour dire que les gens qui confondent les ahruf avec les kiraat sont des imbéciles qui ne savent rien.
Suyuti est mort en 1505 pour dire que ce débat était encore présent au tournant du XVIe siècle. Comment, finalement, petit à petit, la version standard que nous avons maintenant, la Vulgate Othmanienne, s'est stabilisée? Est-ce que, une bonne fois pour toutes, avec la version et l'intervention de l'université Al-Azhar, vers 1923-24, ou est-ce que, bien avant, on l'avait déjà stabilisée?
Alors, il y a effectivement plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape Ibn Mujahid qui déjà bloque les choses en disant il y a 7 qira'at. Après ça, on en ajoutera 3 pour arriver jusqu'à 10, puis après ça 14, mais disons que 10, c'est les 10 qira'at sont celles qui sont le plus communément considérées comme canoniques.
On peut dire lecture.
Les lectures. Donc ces lectures-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est grosso modo des petites variations sur la vocalisation, parfois sur le squelette consonantique, mais disons que c'est mineur. Ça n'est, il n'y a pas, par exemple, de changement radical de mots. Alors, l'épisode Ibn Mujahid est très important dans la mesure où il apporte une première stabilisation à un texte qui avait déjà été bien encadré par les Omeyyades, qui ont fait un travail de ce point de vue-là tout à fait remarquable. Ce sont en fait eux qui ont commencé cette démarche. Et puis, beaucoup plus tard, à la fin du 19e et surtout début du 20e, les savants d'Al-Azhar ont choisi de proposer un texte qui, pour eux, revenait aux origines. C'est très intéressant parce que c'est un épisode sur lequel on a très peu de renseignements, qui est fondamental parce que il a ouvert une nouvelle étape dans l'histoire du Coran. En ce sens que ils ont fait le choix d'une des qira'at, et plus exactement de la transmission par un élève de l'un des imams qui transmettait une qira'at. Donc c'est pour ça on parle de la lecture de Hafs, dérivée de Asim. Asim, c'est un des 7 lecteurs, mais en fait il faut savoir que il y a beaucoup plus de lectures. Quand on regarde dans le détail, on en a au moins 80 qui sont toutes accrochés à ces lecteurs, ces 10 lecteurs d'origine, dans la mesure où chaque fois il y a une transmission et les transmissions ne coïncident pas. Donc c'est aussi un phénomène qui est assez troublant. Mais toujours est-il que donc ils ont fait le choix de cette lecture et ils ont fait un travail énorme à partir, et ça aussi c'est un point qui est très intéressant, à partir de traités sur le texte coranique. Ils n'ont pas utilisé les manuscrits du Coran, même si l'un des intervenants avait sa propre copie du Coran, mais ce qu'ils ont fait, ça a été de recourir à de la littérature sur le Coran pour définir le texte coranique.
Et oui, je vous en prie.
Et donc, le livre qu'ils ont produit, la copie du Coran qu'ils ont produite, a été publié sous les auspices du roi Fahoud, d'où parfois le nom qu'on lui donne, ou on dit plus généralement le Coran du Caire, et ce Coran du Caire a eu un succès absolument universel. À l'heure actuelle, c'est ce que diffuse par exemple la fondation saoudienne de publication du Coran, et également, là aussi c'est quelque chose qui n'était pas prévu au départ mais qui a eu une importance considérable, la possibilité de reproduire la voix humaine, d'abord sous forme de disque, puis maintenant sous forme de DVD ou n'importe quel support électronique, fait que ce qu'on entend partout, c'est cette même version, ce qui fait que les gens sont persuadés encore plus que le Coran, il est absolument unique. On oublie même les autres qira'at, et dans mon livre, j'ai emprunté à un collègue libano-américain une très jolie anecdote qui se passe à Beyrouth, donc dans les années 90, où l'imam de la mosquée commence à réciter le texte selon la lecture de Hamza, c'est-à-dire un des autres lecteurs, qui n'est pas Asim, mais un autre lecteur, et les fidèles l'expulsent de la mosquée, convaincus qu'il est devenu gâteux et qu'il dit n'importe quoi.
Ou qu'il est le suppôt du chiisme. Aussi, dans la belligérance actuelle qui a commencé depuis 2 ou 3 décennies avec cette véhémence. François Desroches, comment expliquez-vous le succès, s'il y a une explication, de la lecture selon Hafs, et pourquoi celle-là particulièrement?
Alors, c'était la lecture du monde ottoman. L'Égypte s'est, si j'ose dire, convertie à cette lecture-là après la conquête ottomane. Avant, c'était une autre lecture qui avait la préférence. Le succès, ben, je pense qu'il correspond justement au besoin d'avoir un texte qui ait une sanction forte. Et bon, les chairs d'Al-Azhar donnaient une validation à un texte écrit qui, jusqu'à présent, avait un petit peu dépendu des copistes. Et là aussi, on touche un autre point qui fait presque parallèle avec l'histoire de Gutenberg. L'imprimerie a joué un rôle essentiel dans le succès de cette vulgate du Caire, dans la mesure où il était possible de la diffuser en quantité impressionnante, d'autant plus que, encore une fois, et c'était extraordinaire, la façon dont l'histoire se répète, puisque les autorités égyptiennes, le roi Fahoud, ont apporté leur soutien à cette opération, de même qu'avant lui, Osman, Abd al-Malik, ont apporté leur soutien à une... Donc, il y a cette constance dans le soutien, la façon dont le politique et le religieux s'associent, et on a eu donc un succès absolument planétaire.
Surtout que le roi Fouad Ier voulait être calife à la place du calife. On est dans les soubresauts de l'abolition du califat par la Grande Assemblée nationale turque et Mustafa Kemal Atatürk. Si vous voulez bien, revenons cette fois-ci après l'histoire du Coran, comment il a été fixé, sa vulgate ou ses vulgates, à sa présentation, ce qui est déroutant. Voltaire dit que c'est une rhapsodie sans ordre, ni art, ni liaison. C'est que il n'est pas classé dans l'ordre chronologique. Comment explique-t-on cela?
Alors, il semble que la façon dont il est classé, grosso modo, reposait sur un critère parfaitement, comment dirais-je, matériel, celui de la longueur des sourates. Et cette façon de faire...
Parce que c'était pratiqué pour les pour la poésie anti-islamique.
Exactement, on connaissait cette façon de faire, donc c'était un bon classement. Simplement, dans la mise en œuvre, il semble qu'il y ait eu des interférences avec, justement, des... recueil antérieur. Par exemple, il y a toute une série de sourates qui commencent par les fameuses lettres mystérieuses. C'est-à-dire qu'au début de la sourate, on a des lettres dont on ne sait pas trop à quoi elles correspondent. Mais on a fait observer, par exemple, que pour les sourates qui commencent par « Hamim », elles interrompent cette séquence et que la première sourate après toutes ces sourates « Hamim » est plus longue que la dernière d'entre elles, comme si un recueil qui existait déjà et qui était classé sur la même base avait été inséré tel quel dans la vulgate osmanienne, alors que le classement d'Ibn Mas'ud est beaucoup plus continu, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas ces sourates « Hamim ». Enfin, le « Hamim » figurait dans le texte, mais... disons, ne servait pas de raison pour tenir ensemble toute une série de sourates indépendamment de cet ordre-là.
Puisque vous avez évoqué ces fameuses lettres mystérieuses ou énigmatiques, je vous pose la question, l'humilité des savants est de dire « on ne sait pas à quoi servent-elles », au mieux ce serait peut-être pour alerter ou faire en sorte que les gens puissent écouter, c'est une sorte d'appel.
Oui, alors, bon, il y a une quantité d'explications. Effectivement, on a invoqué cette raison. D'autres ont dit ce sont des lettres qui correspondent à tel ou tel compagnon qui aurait... Mais bon, là aussi, ça ne me semble pas très crédible parce qu'on ne voit pas un compagnon mettant sa signature en tête de sourate. Ça aurait été, disons, un peu inconvenant. On a essayé de... quelqu'un a fait remarquer que toutes les lettres de l'alphabet arabe se trouvaient impliquées et que ça... les mystiques aussi sont venus avec leurs explications. J'avoue que celle qui me paraît la plus cohérente, c'est peut-être justement l'existence de recueils. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait mis des lettres mystérieuses en tête des sourates? Ça, c'est un point qui me reste tout à fait obscur. Alors, ce qui m'intrigue beaucoup, l'un des documents les plus fascinants de notre époque, c'est le palimpseste de Sana. Malheureusement, l'une des sourates qui commence par une des lettres mystérieuses et qui ne se trouve pas à l'endroit où elle devrait dans la devrait être selon la Vulgatus Magnienne. Malheureusement, cet endroit est endommagé, donc je ne sais pas s'il y avait ou non les lettres mystérieuses ou si elles étaient absentes de son texte.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du Coran, de son histoire plurielle, avec l'islamologue François Desroches, membre de l'Institut et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission. Puisque vous avez évoqué le palimpseste de Sanaa, il y a aussi un autre manuscrit, le Parisino Petropolitanus. D'abord, qu'est-ce que c'est avec ces 98 feuillets qui sont dont 76 seraient à la bibliothèque, sont à la Bibliothèque nationale, 26 à Saint-Pétersbourg, un au Vatican et un à la Bibliothèque de Londres.
Alors c'est un manuscrit qui est très intéressant parce que pour l'histoire du Coran justement après l'épisode que vous connaissez bien de John Wansbrough qui prétendait que le Coran avait été constitué à la fin du 8e au début du 9e siècle, ce manuscrit qui peut être daté de manière assez précise dans le troisième quart du 7e siècle montre que le texte du Coran était déjà parfaitement en place. Alors nous n'avons pas l'intégralité du texte parce qu'une partie
40%
a été perdue,
à peu près,
presque 50%. Donc c'est un dans différentes parties. Donc c'est un témoin tout à fait fondamental, disons, pour confirmer que le travail fait par les gens qui ont conçu la recension du texte existait bien à cette époque. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la façon dont l'orthographe coranique est encore très rudimentaire, très imprécise sur un certain nombre de points. C'est l'occasion également de constater que les diacritiques, c'est-à-dire les points qui permettent de distinguer les homographes, sont encore employés de manière très insuffisante. Et d'ailleurs, une photo que j'aime bien, c'est celle qui figure dans le livre. C'est une page du Parisino Petropolitanus et à côté de ça, ou plutôt la transcription du Parisino Petropolitanus, et à côté de ça, un Coran moderne. Et on voit la multiplicité des points, des signes qui ont été ajoutés depuis le XVIe siècle pour faire du Coran un texte qui, un, est lisible directement, y compris par quelqu'un qui ne connaîtrait pas par cœur le texte, donc qui n'utiliserait pas le manuscrit comme aide-mémoire, et deuxièmement, qui permet de stabiliser le texte. C'est pour ça, on insiste beaucoup sur la mémorisation du texte, mais en fait, le texte du Coran tel qu'il est actuellement en circulation est un texte qui immobilise complètement et qui donne toutes les informations qu'un lecteur a besoin de savoir pour lire correctement le texte. L'erreur n'est pas permise.
Oui. Un mot peut-être encore sur le Parisino Petropolitanus, sa propre histoire et qui a intéressé beaucoup les codicologues et les paléographes, c'est que c'était suite à la campagne de Bonaparte qu'on l'a découvert à Fustat, enfin pas loin du Caire, et puis on l'a amené en Alexandrie.
Alors c'est effectivement l'histoire est assez belle. À Fustat, donc ce qu'on appelle le Vieux Caire, c'est la fondation initiale de l'islam en Égypte, et longtemps capitale de l'Égypte jusqu'à l'arrivée des Fatimides qui fondent le Caire. Il y avait dans la mosquée, qui fut longtemps la mosquée principale, la mosquée de Amr, il y avait donc une sorte de dépôt de manuscrits usagés qui étaient stockés sans beaucoup de soin dans une pièce. Au moment de la campagne d'Égypte, un arabisant français, Jean-Joseph Marcel, qui était également imprimeur, a découvert, on ne sait pas dans quelles conditions, mais il a découvert ce dépôt et il est venu acheter ou prendre, on ne sait pas trop, des feuillets qui, après ça, ont été achetés par la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, ce qui explique leur présence en Russie. Et puis, peu de temps après, un élève de Sylvestre de Sacy, Jean-Louis Asselin de Cherville, est venu également au Caire et lui a acquis d'autres feuillets en plus grande quantité qui, par la suite, ont été acquis par la Bibliothèque nationale et se trouvent à Paris et font partie de ce fonds absolument extraordinaire de Coran ancien qui se trouve conservé à la Bibliothèque nationale.
Et celui-là a, je le dis sous votre contrôle, au moins 5 scribes qu'on a nommés de A à E, puisqu'ils sont anonymes. C'est selon leur écriture, leur graphie,
voilà,
qu'on les a distingués.
Absolument. C'est aussi très intéressant de voir que ils sont très facilement identifiables. Chacun a son écriture absolument caractéristique, mais chacun a également sa façon d'orthographier. Il y a des variantes d'orthographe, ce qui veut dire que tout cela était parfaitement fluide, qu'il n'y avait pas de contraintes, et également sa façon de considérer la séparation des versets en ce qui concerne la basmala. La basmala est la formule initiale en tête de chaque sourate. Pour les uns, c'est un verset, pour les autres, ça n'est pas un verset. Donc, à l'intérieur d'un même manuscrit, coexistaient différentes façons de voir sur le texte coranique, même si tous étaient des bons musulmans et parfaitement convaincus de ce qu'ils faisaient.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, monsieur le professeur. Une question d'ordre théologique, et puis ce à quoi vous êtes arrivé dans vos travaux, comme conclusion. La première, c'est cette notion du Coran préservé sur une tablette gardée dans l'Empyrée céleste. Qu'est-ce qui est préservé, la tablette ou le Coran? La présentation est amphibologique.
Il y a eu beaucoup de discussions chez les théologiens musulmans pour savoir ce qui était préservé. Effectivement, le texte est ambigu. Les uns ont opté pour une solution et d'autres une autre. Tabari dit que au bout du compte, ça n'est pas très important puisque ce qui importe, c'est que le Coran soit ou la tablette soit bien préservée et c'est ça l'essentiel.
Oui, Tabari est mort en 923. Déjà, cette affaire a été tranchée comme ça. Et finalement, vous mettez en avant le hadith, donc l'aphorisme ou la maxime du prophète qui met en avant l'importance du sens que le fait de tenir Mordicus à la lettre.
Absolument. Donc, il y a toute une série de hadiths transmis par divers transmetteurs qui sont des hadiths qui figurent dans les recueils authentiques, sahih, et donc qui disent de manière très clair que si on emploie, on termine le verset en récitant Sami Alim ou d'une autre façon,
audiant omniscient,
que c'est bon et que ça ne pose pas de problème. Et alors c'est une des choses intéressantes des recherches sur les manuscrits, c'est qu'on voit qu'effectivement cet usage de la synonymie pour le Coran existe, est attesté également dans les manuscrits. On a par exemple un verset qui est absolument fondamental, qui est très connu, le verset de la lumière dans la sourate 24. Dans le palimpseste de Sana'a, il se termine, la formule finale n'est pas celle que on connaît dans le Coran de Haussmann. Le sens du texte est exactement le même, mais on emploie une autre formule finale. Et on en a plusieurs exemples, ce qui permet de conclure que ce qui nous est rapporté à l'époque ancienne sur l'emploi de la synonymie pour le texte du Coran était quelque chose qui n'était pas simplement une manière de réciter différente, mais une manière également de noter par écrit le texte. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que cela remet en cause effectivement l'idée que le Coran de Haussmann et parfois même la version de Hafs n'est pas la photographie exacte de cette tablette bien gardée, puisque la tablette comportait visiblement plusieurs variantes, plusieurs versions, ou peut-être que tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que Mohammed lui-même était plus soucieux de voir son message transmis que de le voir respecté jusque dans son moindre détail.
Merci infiniment, merci François Desroches. C'était question d'islam. Aujourd'hui, nous avons parlé du Coran, de son histoire plurielle. Un jour, si vous voulez bien venir nous parler plutôt cette fois-ci de son exégèse, des différents commentaires, de ses sens multiples et puis de la langue utilisée. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Éric Boissé et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin. Thank you.